Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Leridon, Bertie Bourdon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Troisième volet de notre série consacrée à quelques portraits de villes, après avoir parlé de Jérusalem, de Chicago et San Francisco, et avant de parler demain de Bogota, place à la Turquie et aux mers kurdes.
As you know, three mayors have been suspended.
Comme vous le savez, ce 19 août 2019, trois maires ont été suspendus de leurs fonctions par le gouvernement dirigé par l'AKP. En tant que maire de la métropole de Diyarbakir et en tant qu'un des trois maires suspendus, j'appelle l'opinion publique internationale à agir et à se mobiliser contre ces démissions forcées de maires élus démocratiquement en Turquie. Aucune personne, aucune autorité n'a le droit de dérober la volonté de millions de personnes. Nous n'implorons pas la pitié, nous demandons simplement le respect du droit et de la démocratie.
Alors qu'il avait été élu quelques mois plus tôt maire de Diyarbakir, principale ville de la région, capitale historique et symbolique des territoires kurdes de Turquie, Adnan Misraklı a finalement été démis de ses fonctions, remplacé par un administrateur nommé par le gouvernement turc. Adnan Misraklı n'est malheureusement pas un cas isolé. Sa prédécesseur, Gültan Kişanak, avait été arrêtée, elle, en 2016 et condamnée à 14 ans d'emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste. Sur les 65 maires élus aux dernières élections municipales en Turquie, on dénombre déjà 45 maires révoqués et remplacés par les autorités. Alors en quoi ces municipalités représentent-elles une menace pour le président Erdogan? Comment comprendre cet acharnement du pouvoir sur les maires des partis pro-kurdes, pourtant légaux, autorisés? Au-delà d'une posture d'opposition au pouvoir central, c'est aussi un projet politique alternatif que les dirigeants kurdes ont voulu mettre en place à Diyarbakir et dans d'autres villes de la région. Gouvernance partagée, émancipation des femmes et égalité des sexes, lutte contre la corruption. La révocation des maires kurdes acte-t-elle la fin de tout espoir de changement, y compris à l'échelle des villes? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Olivier Piau. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Olivier Piau. Vous êtes journaliste, grand reporter. Vous travaillez notamment pour Orient 21 et Le Monde Diplomatique. Et puis, vous avez cofondé Médias et Démocratie. Vous tenez à ce qu'on le précise, et on le précise avec plaisir. C'est une plateforme franco-africaine de formation des journalistes. Et puis, j'indique également que vous venez de publier très récemment un nouvel ouvrage sur les Kurdes, Kurdes, les damnés de la guerre, paru aux éditions des Petits Matins. Avec nous également depuis Istanbul, Jean-François Pérouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Petit décalage évidemment parce que vous êtes depuis Istanbul. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, que vous êtes l'ancien directeur de l'Institut français des études anatoliennes et que vous avez signé plusieurs ouvrages. Je pense notamment à Erdogan, nouveau père de la Turquie, point d'interrogation. Vous aviez co-signé avec Nicolas Cheviron, mais aussi Istanbul Planète, la ville monde du 21e siècle. On va commencer peut-être avec le cas de ce maire, Adnan Misraklı, dont je parlais dans mon introduction. C'est l'un des 23 maires élus l'année dernière et maintenu en détention depuis son arrestation d'octobre dernier. Il y a un tribunal qui d'ailleurs, il y a quelques semaines, l'a condamné à 9 ans de prison. Concrètement, et on va commencer avec vous Jean-François Pérouse, depuis Istanbul, qu'est-ce qu'on reproche à cet homme? Sur quelle base légale les juges se sont appuyés pour le condamner, Jean-François Pérouse?
Alors, malheureusement, sur des dénonciations d'un repenti anonyme. Donc c'est assez fragile, hein, mais enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis le coup d'État de juillet 2016, tout est permis hein, à la justice turque et au pouvoir turc. Hein, et donc la justice ne s'encombre pas de scrupules hein, pour rédiger des chefs d'accusation hein, qui sont parfois assez surréalistes. Alors très précisément, on lui reproche sur une dénonciation anonyme, hein, donc la valeur juridique hein, au regard du droit est quand même très très faible, mais néanmoins, on lui reproche d'avoir, puisque c'est un médecin, c'est un grand médecin, il est diplômé de la plus grande, d'une des plus grandes universités de Turquie, d'Ankara Hacettepe. Il a été, c'est un profil un petit peu spécifique. Hein, et on l'entend d'ailleurs faire sa conférence de presse en anglais. Hein, il a été formé en anglais, etc. Donc, c'est quelqu'un qui donc, sur l'arène internationale, est à l'aise, hein, il faut le dire d'emblée, hein, parce que parfois on a tendance à avoir de manière très locale hein, ces politiciens kurdes, et ça n'est pas du tout le cas de Monsieur Misrakli, à qui on reproche donc, en tant que médecin, d'avoir soigné un guerrier rose du PKK et de ne pas avoir signalé la présence de ce guerrier rose dans l'hôpital où il travaillait, à Diyarbakır, aux forces de sécurité. Voilà. C'est le principe. Pas le grief hein, qui lui est fait. Le second, c'est d'avoir été à la tête d'une association hein, qui de lutte contre la pauvreté et d'avoir distribué hein, à un peu plus de 5000 familles, sans référer au préfet, hein, des colis pour les aider, enfin, des familles indigentes.
C'est toujours un peu finalement le cas, Olivier Piau, quand on arrête des élus kurdes qui ont été élus sous la bannière d'un parti démocratique des peuples, HDP, qui est tout à fait légal en Turquie, à chaque fois qu'on les arrête, c'est à cause de liens supposés avec le PKK. Alors, peut-être qu'on reviendra sur la réalité de ces liens. Il y a encore quelques semaines, il y a 4 autres maires élus sous la bannière du HDP qui ont été arrêtés. Donc, on voit que l'assaut à l'égard des municipalités kurdes gagnées par le HDP se poursuit. Pourquoi, Olivier Piau, finalement, quel danger politique il représente ?
Oui, effectivement, ces attaques du pouvoir d'Ankara contre les élus kurdes au sens large, de district, les députés et évidemment les maires aussi, sont systématiquement les cibles au prétexte variable mais qui tourne toujours autour de liens présumés avec l'organisation terroriste, entre guillemets, du PKK, puisque c'est comme ça qu'elle est caractérisée par Ankara. Alors, ce sont les cibles parce que je crois que ils agissent au plus près du terrain, en proximité avec les populations kurdes de toutes ces villes et villages du sud-est de la Turquie, et ils incarnent en quelque sorte les vigies, ils sont un peu comme des sentinelles à la fois des aspirations démocratiques de ces populations et évidemment aussi de leurs revendications identitaires, politique. Donc c'est le bon échelon, je pense, pour Ankara à viser pour tenter de décrédibiliser et d'effacer finalement la légitimité politique de ces élus. Il y a aussi le niveau des députés. Vous avez vu que très récemment, ils ont, à la Cour de cassation, a validé l'annulation du mandat de 4 députés. Souvent, ces maires sont devenus députés. Voilà, donc je crois qu'on a affaire effectivement à une attaque ciblée, mais depuis la fin des années 90, par vagues successives, contre des hommes, des femmes qui incarnent aux yeux de la population kurde l'étendard à la fois de la démocratie et des aspirations kurdes.
Oui, c'est effectivement une chose qui est absolument pas nouvelle. Quand on regarde les municipales de 2014, à l'époque, il y avait eu 102 municipalités qui avaient été prises par un élu du HDP et 95 mairies étaient finalement passées sous le contrôle d'un fonctionnaire du gouvernement. On reviendra justement sur ces fameux tuteurs. Mais Jean-François Pérouse, aucune évolution à attendre de ce point de vue-là. Il y a eu en avril dernier, en pleine crise sanitaire, une loi d'amnistie qui a été votée, qui laisse entrevoir la libération de milliers de prisonniers. Aucune chance que ça concerne ces maires arrêtés et condamnés, Jean-François Pérouse.
Non. Et malgré leur état de santé, hein, parfois critique, et notamment hein, celui de Monsieur Misrakli, hein, effectivement, cette amnistie a bénéficié, enfin, qui est le produit hein, de cette alliance infernale, pourrait-on dire, hein, entre le parti de l'extrême droite et l'AKP. Cette amnistie donc tient hors de son champ hein, tous les politiques hein, qui restent et parfois dans des conditions extrêmement difficiles surpopulation hein, des cellules.
On a édité de leur nombre dans les geôles turcs, ces fameux terroristes, parce que c'est toujours comme ça qu'on les qualifie. Oui, hein, en gros, le délit d'opinion, c'est ça. On a une idée de leur nombre dans les geôles turcs.
Oh, ils sont près de 10 000. Hein. Si vous comptez l'ensemble, les étudiants, les militants, les élus locaux, les cadres locaux, hein, c'est considérable, considérable.
Olivier Piau, ces maires, donc, ils sont arrêtés, pour certains condamnés, et puis on les remplace par des fonctionnaires, des administrateurs, qu'on appelle des caïums, c'est-à-dire des tuteurs judiciaires, qui donc évidemment n'ont pas été élus, qui ne sont là que parce que le pouvoir central en a décidé ainsi. Quel est précisément leur pouvoir réel justement dans ces municipalités? Parce que c'est une chose de nommer des fonctionnaires, une autre d'avoir de réelles marges de manœuvre, parce qu'ils sont quand même face à des populations qui a priori leur sont hostiles puisqu'ils n'ont pas voté pour elles. Olivier Piau.
Oui, alors moi j'en ai rencontré évidemment pas mal de ces maires depuis... mon travail de terrain en 2005 en Turquie, enfin dans le Kurdistan de Turquie, et bien sûr la situation est très difficile pour eux puisque le fond sur lequel ils interviennent, avec des variantes entre des grandes villes comme Urfa, Gaziantep ou Diyarbakir, et puis des plus petites villes, c'est un fond de chômage, de marginalisation de ces régions et de ces villes par l'État turc, avec en plus une occupation militaire par l'armée turque qui est très forte dans ces régions. Je crois qu'on est aujourd'hui, j'ai pas les tout derniers chiffres, mais on est à plus de 250 000 soldats turcs qui sont encasernés dans ces régions. Donc leur marge de manœuvre, elle est faible, mais elle compte, elle est importante. Et d'ailleurs, l'AKP, au début des, quand il est arrivé au pouvoir, a tenté de reprendre ses mairies, et en partie au milieu des années 2000, ils avaient réussi à faire élire des maires de l'AKP, et puis rapidement, ils ont été décrédibilisés par des politiques clientélistes, etc. Alors, ils peuvent quand même soutenir l'hiver, les distributions de charbon pour se chauffer, des associations pour trouver du travail pour les plus jeunes. Il y a quand même une marge de manœuvre sur laquelle ils peuvent être jugés aussi sur leur mode de gestion par les populations kurdes. Et bien souvent, ils ont réussi à faire la différence, en tout cas sur le terrain de la corruption et du clientélisme, où ils ont tenté d'être relativement exemplaires par rapport à d'autres élus.
Jean-François Pérouse, est-ce que vous saluez aussi d'une certaine manière la gestion de ces fonctionnaires? Il y a un rapport du ministère du Trésor turc qui indique que la dette globale des mairies tenues par le HDP, enfin, ou mises sous tutelle plutôt, justement, a augmenté de 85% entre 2016 et 2018. Ça, c'est les chiffres officiels. Est-ce que c'est le résultat d'une gestion particulièrement mauvaise de ces tuteurs de l'État, ou il y a d'autres éléments qui expliquent ça? Et puis, plus généralement, quel bilan vous faites-vous de l'action de ces remplaçants, de ces fonctionnaires?
Ah, le bilan, il est assez catastrophique. Hein. En tout cas, le bilan financier, donc vous l'avez mentionné, on a plusieurs rapports qui font état donc d'une augmentation considérable de la dette, de dépenses somptuaires absolument ridicules. Hein. Et d'ailleurs, quand Monsieur Mzrak a pris ses fonctions, donc début avril 2019, il a commencé par une visite du palais de son prédécesseur, des bureaux qui avaient été réaménagés à grands frais, avec installation d'une salle de bain, avec marbre et robinet en or, enfin bon, des dépenses somptuaires, façon assez simple, mais assez efficace, de discréditer ces administrateurs qui n'ont aucune légitimité et aucun savoir-faire non plus en matière de gestion locale, et qui sont dans le mépris total des critères les plus élémentaires, parce qu'ils savent aussi qu'ils sont pas là pour très longtemps, quoi. Donc c'est une espèce sont des comportements qui tiennent à la fois de la provocation et aussi de l'irresponsabilité totale. Mais en tout cas, la dette est considérable, et il n'est resté que 3 ou 4 mois, mais après avoir été élu, Moussrak a tenté d'éponger ses dettes. Hein. C'est un fait hein, avéré. Hein. Alors, on ne retient souvent que les dépenses somptuaires, hein, les plus ridicules, mais enfin ça a frappé l'opinion hein, et ça mérite d'être redit.
Olivier Piau, attardons-nous peut-être un instant sur la question des liens réels entre le HDP, donc Parti démocratique des peuples, pro-kurde, mais qui en réalité a une base électorale qui est beaucoup plus large, entre ce parti et le PKK, parce que on l'a dit, à chaque fois qu'on a besoin de mater l'opposition kurde, on utilise ce prétexte, voilà, vous avez des liens avec le PKK, vous avez été présent lors d'obsèques de membres du PKK, donc vous êtes potentiellement condamnable pour terrorisme. Les liens réels entre le HDP et le PKK, quels sont-ils? Et au fond, voilà, pourquoi est-ce que on autorise un parti comme le HDP si on considère que ses responsables sont forcément en lien avec une entité qu'on considère comme terroriste? Olivier Piau.
Oui, alors là-dessus, on voit souvent dans les médias turcs et d'autres, y compris chez nous, que le HDP et les partis prédécesseurs, hein, puisque c'est le nom qu'il a depuis sa création en 2013, il y a eu dans le mouvement démocratique kurde d'autres partis avant, depuis les années 90, il les présente souvent comme la vitrine légale du PKK. Il y a une chose de sûre, c'est que le mouvement kurde aujourd'hui est constitué d'une arborescence d'organisations et d'associations, et le HDP lui-même, à partir de 2013 et de son congrès, et la fédération en fait de, je crois, 7 partis, organisations politiques, et puis plus de 25 associations. Donc c'est un mouvement issu de la société civile, et le canal historique de ce mouvement kurde en Turquie, bien sûr, c'est le PKK, on pourrait remonter avant même sa création en 1978, mais disons qu'à partir du début des années 80, du coup d'État, le PKK s'est arrangé pour avoir le monopole de la représentation politique de ce mouvement kurde, mais il l'a jamais complètement mis sous tutelle, et a fortiori depuis l'émergence de ces mouvements démocratiques légalistes qui acceptaient de participer aux élections, on a une sorte d'hélice d'ADN dédoublée avec l'organisation du PKK, ses combattants, sa lutte armée, et puis ses maquis, par exemple, au nord de l'Irak, et puis tout ce mouvement de la société civile kurde qui a un lien, idéologique, politique avec le PKK, mais qui en même temps n'en est pas l'émanation, avec des élus, des cadres qui sont toujours soucieux d'être solidaires du PKK quand il est attaqué par l'État, quand ses militants sont mis en prison, dénoncés. Donc il n'a jamais accepté de se désolidariser de ce canal historique de combattants. Et en même temps, il y a une marge de manœuvre qu'il a eue, qu'il a exprimée à plusieurs reprises, notamment lors des négociations que Erdogan a ouvertes à partir de 2006 jusqu'à la rupture en 2015. L'amnistie, par exemple, des prisonniers politiques et la possibilité pour les militants du PKK de revenir désarmés en Turquie a toujours été une condition pour les cadres du HDP aux négociations. Donc vous voyez qu'on est pas dans une vitrine légale, je pense que c'est faux de le dire, mais il y a évidemment des liens, et notamment cette idée que le PKK continue de porter l'héritage historique de la cause kurde en Turquie.
Jean-François Pérouse, Olivier Piau nous dit que le HDP n'est pas la vitrine légale du PKK. Dès lors, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce que ça, c'est pas un élément qui n'est pas plus mis en avant? C'est-à-dire qu'il y a quand même, on voit bien, on le dit, pour le pouvoir turc, l'accusation de terrorisme, c'est un formidable levier pour mater l'opposition kurde. Dès lors, il pourrait y avoir une stratégie qui consiste à se détacher très officiellement du PKK pour éviter précisément d'être sous la menace permanente des autorités d'Ankara. Est-ce que en réalité cette voie est politiquement impossible à prendre? D'une certaine manière, la prise de distance avec le PKK, ça signifierait de facto une condamnation politique de la part des électeurs kurdes, ou est-ce qu'il y a quand même une voie possible, Jean-François Pérouse?
Il y a des voies possibles, hein, comme Olivier Piot l'a bien dit, hein, le mouvement kurde est extrêmement complexe et maintenant déborde très largement le PKK, qui est d'abord un parti, hein, et donc avec un programme qui évolue et qui continue, hein, à, disons, à inspirer, hein, la définition des programmes politiques en Turquie, mais aussi en Syrie, mais surtout avec un leader, hein, un leader qui, dès 92, hein, a renoncé à la perspective d'une indépendance, hein, du Kurdistan et d'une lutte pour l'indépendance. Donc toutes ces choses, elles sont systématiquement évacuées quand on parle du PKK. On a quelque chose d'extrêmement complexe, et cette complexité, on la lit à l'échelle des familles, hein, ou à l'échelle même des trajectoires individuelles. C'est-à-dire que dans une même famille, vous pouvez avoir un élu, hein, du HDP, et puis quelqu'un qui est parti dans les montagnes, hein, et c'est souvent le cas, mais il n'y a pas de lien, hein, de lien organique, hein, et ce serait réduire, hein, le monde kurde qui maintenant se nourrit à des dynamiques, hein, sociétales, économiques, générationnelles, multiples, hein, et locales, le réduire, hein, à la lutte armée, hein, sachant que bon, le PKK doit d'abord être considéré, hein, comme un parti politique avec un leader, hein, qui sur des questions, hein, très fortes, hein, qui sont des enjeux de la vie politique locale, hein, la question de l'égalité entre les sexes, on en reparlera, la question de la pluralité, hein, identitaire, hein, la question écologique, qui fait aussi des propositions, hein, et qui sont reprises, hein, qui passent dans les programmes et qui passent même dans l'action politique locale.
J'entends le projet politique, oui, qu'il y a derrière que vous exposez, mais il n'empêche que du point de vue d'Ankara, il s'agit d'une organisation terroriste, point. Dès lors, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vers cette stratégie qui consiste à se détacher précisément de ce PKK.
C'est aussi un patrimoine, hein, je veux dire, ça fait partie maintenant de l'identité de ce mouvement, et on peut pas non plus nier cette identité, l'évacuer. Et il y a, je pense que dans le travail qui avait été initié, hein, ce qu'on a appelé les processus de paix, mais de reconnaissance, hein, d'une faute de l'État turc, dans le recours systématique à la violence, hein, dès le début de la fondation de la République turque, dans ce travail, hein, de retour sur le passé, eh bien, on aurait pu, s'il avait été poursuivi, hein, ce travail, et de manière équilibrée, hein, aussi envisager les fautes commises par l'armée du mouvement kurde, hein, mais malheureusement, les conditions pour une telle reconnaissance, hein, de part et d'autre, hein, eh bien, ce sont très vite pas été remplies, le contexte s'est dégradé, et malheureusement, la situation est revenue à une polarisation, hein, très très réductrice en définitive, hein, où effectivement le PKK n'est plus perçu que comme une organisation terroriste.
Olivier Piot, je voudrais qu'on revienne un instant sur les élections municipales de 2019. On avait beaucoup insisté, à raison, sur le revers électoral pour l'AKP, et pour cause. L'AKP, le parti de Erdogan, l'AKP qui a perdu Istanbul, qui a perdu Ankara. Mais on va revenir peut-être sur les moteurs de ce revers électoral, mais je voudrais qu'on regarde les choses de l'autre côté et observer peut-être là où il y a eu des victoires, et des victoires peut-être inattendues, parce que lors de ces élections, il y a aussi eu certaines villes qui étaient traditionnellement tenues par le HDP, donc le parti pro-kurde, qui ont été remportées par l'AKP. Il y a Mousse, il y a Bitlis, il y a Sirnak. Pardon pour la prononciation si elle n'est pas tout à fait bonne. Mais comment comprendre cette chose-là? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être kurde et voter pour le parti islamo-conservateur, même si l'AKP n'aime pas beaucoup ce qualificatif? Pourtant, c'est un peu ce à quoi ça ressemble quand même. Olivier Piot.
Oui, alors je crois que là-dessus, c'est important de se mettre à la place de ces populations, de ces régions, qui se sont en grande partie vidées après la destruction systématique des villages dans les années 90, et qui subissent depuis trois décennies, encore une fois, une marginalisation économique, des problèmes sociaux, une occupation militaire, des enfants dans les prisons, des manifestations réprimées. Il y a beaucoup de familles kurdes que moi j'ai croisées qui en ont ras-le-bol de cette situation. Alors certaines ont pu quitter la région, d'autres n'ont pas pu. Il est quand même relativement facile d'imaginer que pour beaucoup de familles kurdes, même si elles se sentent un lien avec tous les militants démocratiques ou de la lutte armée, on en ras-le-bol. Alors là-dessus, l'AKP a joué dès le milieu des années 2000 sur la carte « Nous sommes tous des musulmans ». C'est-à-dire qu'il a tenté de gagner, et à l'époque il en avait gagné pas mal, dans les élections précédentes, des mairies au prétexte que ce qui fait l'unité finalement entre les Turcs et les Kurdes, c'est l'islam. Donc pour sortir de cette impasse militaire, de guerre civile, l'AKP propose des associations, des fondations, de construire des mosquées, etc. Et évidemment, il a eu à une époque l'écoute d'un certain nombre de familles kurdes. Il l'a perdu depuis, même si ponctuellement, à chaque élection, il peut en regagner certaines. Disons que globalement, ce mouvement de substitution n'a pas pris, parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que les populations kurdes ont vu qu'il n'y avait pas d'alternative, c'est-à-dire que les mairies prises par l'AKP n'ont pas finalement permis de gestion plus transparente, au contraire, et que finalement leur vie ne changeait pas. Donc cette substitution peut localement fonctionner dans telle ou telle ville, mais globalement sur l'ensemble du sud-est de la Turquie, donc du Kurdistan, l'AKP, je dirais, a perdu cette conquête électorale. Et c'est pour ça aussi que Erdogan, aujourd'hui, depuis maintenant la fin des pourparlers, on va dire l'été 2015, mène à nouveau une guerre ouverte contre ses populations et ses élus.
Jean-François Pérouse, votre regard sur ces victoires de l'AKP dans certains bastions kurdes, qui en disent long quand même sur le caractère un peu fracturé en réalité de ce qu'on imagine parfois comme étant un bloc kurde parfaitement homogène, parfaitement monolithique. C'est très loin d'être le cas, Jean-François Pérouse.
C'est loin d'être le cas, mais bon, il y a quand même une raison principale, hein, c'est que il y a eu beaucoup de malversations, hein, surtout à la frontière là, du côté de Gizre. On a fait voter les militaires, les policiers. Il y a eu des déplacements de population considérables. Suite à l'épisode de violence, je pense qu'il faut y revenir, qui est un épisode de violence lié en définitive aux événements en Syrie, après la reprise donc de Kobané, un mouvement kurde et syrien et turc a connu une nouvelle dynamique, et c'est alimenté à cette victoire à la fois symboliquement et humainement et économiquement, d'une certaine manière, a retrouvé donc une légitimité. Et là donc on a eu des affrontements d'une très très grande violence.
On est en 2015
voilà la guerre des fossés, et donc avec si on prend l'exemple juste d'une municipalité au sein de la grande ville de Diyarbakır, si on prend donc l'exemple de la municipalité de Sur, qui comprend le cœur historique de Diyarbakır, qui avait été classé par l'UNESCO avant d'être totalement rasé, eh bien là on a eu au moins 75 membres des forces de police qui ont été tués, au moins 300 morts du côté kurde, donc à la fois des combattants, mais comment qualifier un combattant, c'était aussi c'était aussi des habitants, donc une très très grande violence, un recours à la force disproportionné contre des populations civiles. Donc là il y a eu un choc et qui a été utilisé par l'AKP aussi pour discréditer le mouvement kurde, de dire voilà ce que le mouvement kurde vous a apporté, puisque l'autogestion qui avait été proclamée en août 2015, voilà à quoi parle le mouvement kurde dans certaines villes et dans certains quartiers, voilà à quoi elle a conduit, au désordre, etc., etc. Et cet argument de l'ordre, du nécessaire retour à l'ordre, apporté aussi pour les élections en 2019 avec les malversations et avec les charcutages électoraux divers et le bouleversement aussi du corps électoral du fait des migrations.
Est-ce qu'on peut sortir Olivier Piot de cette logique aujourd'hui, parce que Jean-François Pérouse a évidemment raison, il y a cette séquence qui est très importante pour comprendre les équilibres politiques du moment, en 2015, alors que la campagne des élections législatives a commencé, on a un pouvoir qui va décider d'intensifier son action militaire dans les régions kurdes, en quelques semaines on a une situation sécuritaire qui va considérablement se dégrader. Des attaques envers les civils, des attaques menées d'ailleurs contre les locaux aussi du HDP, donc on voit bien qu'il y a une cible politique qui est clairement définie. Il y a aussi une logique de confrontation armée beaucoup plus forte avec le PKK. Aujourd'hui, on peut sortir de ce cycle de violence, de ce cycle de confrontation armée dans ces régions du Sud-Est, où ça paraît très compliqué, Olivier Piot?
Je crois que pour revenir à ce tournant, effectivement, de l'été 2015, le PKK a... c'est en quelque sorte laissé piéger, parce qu'il est acteur aussi de cette montée en puissance de la violence, puisqu'il avait décrété, à l'image de ce qui se passait au Rojava, la guerre révolutionnaire urbaine. C'est-à-dire qu'il a été co-acteur de cette montée en puissance de la violence, qui a permis d'ailleurs à Ankara de justifier sa propre volonté d'en découdre avec le mouvement kurde de Turquie, et c'était en fait une réponse à l'obsession d'Erdogan avec la montée en puissance des organisations kurdes de Syrie, de vouloir absolument lutter contre tous ces terroristes, puisque dorénavant tous les Kurdes étaient taxés de terroristes. Donc il y a une part de responsabilité là-dessus, je pense, du PKK, et d'ailleurs des cadres, des militants du HDP à l'époque avaient été hostiles à ce tournant. Depuis, il est clair que c'est Ankara qui a pris la main et qui mène la répression sévère, brutale dans tout le sud-est de la Turquie. Et la réponse du HDP, elle est de revenir finalement sur ce qu'était son axe, c'est-à-dire d'essayer de rallier l'ensemble des démocrates de Turquie. Il vient de relancer là depuis 2 jours sa marche. Pour la démocratie, vous savez que c'est une longue marche qui part de 2 villes du sud-est du Kurdistan turc, les villes qui sont d'ailleurs les 2 villes où les 2 députés, Demirtas et la femme d'Akari, sont en prison et ont été destitués de leur mandat de député. Cette marche vise à tenter de sortir de cette impasse pour renouer avec une main tendue à toutes les forces politiques kurdes et turques qui sentent qu'il y a une dérive aujourd'hui en Turquie et autoritaire d'Erdogan, ça chacun le voit, et de rallier l'ensemble des forces démocratiques et pour la paix. Et je pense que c'est ça l'issue possible. Depuis très longtemps d'ailleurs, c'est de faire le lien entre les revendications nationalistes kurdes et les aspirations des Turcs non kurdes, des habitants de Turquie, des citoyens turcs qui veulent lutter contre cette dérive autoritaire du régime et de la société turque.
Jean-François Pérouse, est-ce que vous croyez dans la construction de ce bloc démocratique? Et puis peut-être encore un tout petit élément avant d'accueillir une nouvelle invitée, mais qui me semble important parce que vous avez rappelé ce tournant de 2015. Il y a un autre tournant qui est en 2013, si on se souvient un tout petit peu des choses, début 2013, un tout petit peu avant les fameuses mobilisations autour du parc Gezi, qui avaient correspondu à un tournant répressif très fort pour le pouvoir. L'AKP, à l'époque, était engagée dans des pourparlers importants avec les forces kurdes. Il y avait même une feuille de route pour la paix. Je me souviens, on avait eu l'occasion d'en parler tous les deux. On était venus tout début 2013 et vous nous aviez parlé de tout ça. Et à l'époque, le pouvoir turc envisageait de régler ce qu'elle considérait non pas comme un problème kurde, mais comme une question kurde. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché?
Il y a eu de multiples facteurs, dont l'évolution en Syrie. Crois qu'il faut le rappeler, la grande peur d'une autonomisation d'une région kurde au nord de la Syrie et la confiance donnée par la victoire donc de Kobané ont changé la donne. à la fois au sein du, dans les dynamiques du mouvement kurde de Turquie, mais aussi dans la perception de ce mouvement kurde par le pouvoir, sachant que la dynamique paranoïaque était engagée, et que là aussi le pouvoir se sentait aussi menacé par la djemad de Fethullah Gulen. Tout ça a convergé pour, disons, pour le pire, et à empêcher de traiter de cette question, ce dossier, de manière plus sereine, du fait des grandes peurs archaïques qui sont remontées, et de aussi du fait que compte tenu de l'érosion un petit peu de sa base électorale, le pouvoir AKP a été dans l'obligation de faire des concessions à l'extrême droite, au Parti de l'Action Nationaliste, et a changé aussi son discours, mais dans une perspective très très électoraliste. Mais enfin, c'était pas un hasard non plus. Mais voyez, vous avez une convergence d'une évolution, d'une position sur l'échiquier politique interne, d'une évolution internationale. Ces deux dynamiques ont contribué à empêcher ce processus de paix de se poursuivre comme il aurait pu se poursuivre. Et là, il faut le dire quand même, l'AKP a été un acteur à un moment important, il faut lui reconnaître, et même presque même courageux, il faut lui reconnaître cette, et on est d'autant plus surpris voire sidéré du revirement opéré.
Ouais, mais ça, c'était avant, et en tout cas, on comprend qu'effectivement, les Kurdes ont fait, d'une certaine manière, les frais d'une situation, de nouvelles conditions qui dépassaient, en fait, assez largement la seule question kurde. Vous êtes avec nous, Jean-François Pérouse, depuis Istanbul, mais vous également, Olivier Piau, dans cette semaine consacrée à ces villes rebelles. Aujourd'hui, on parle de Diyarbakir, mais aussi d'autres villes kurdes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Salut à vous, les femmes qui résistent. Salut à vous, les femmes qui se battent. Salut à vous, les femmes passionnées de liberté. Salut à vous, les femmes qui revendiquent la dignité de l'humain. Salut à vous, les femmes qui n'acceptent pas les persécutions et qui se battent. Je vous salue toutes, toutes les femmes qui résistent.
Voilà, cette voix qu'on entend, c'est celle de Gultan Kishana, qui fait partie de ces maires de province accusés de terrorisme, remplacée elle aussi par un administrateur nommé par le gouvernement turc. Depuis, elle est en prison, et l'année dernière, d'ailleurs, un tribunal l'a condamnée à 14 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. On va parler de la place des femmes, justement, dans les institutions, dans les instances représentatives kurdes. Bonjour, Lucie Drerselova.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'Institut Oriental de l'Académie des Sciences Tchèques et vous avez fait une thèse sur la question de la place des femmes dans les pouvoirs locaux kurdes. Depuis 2005, on l'a dit déjà, le HDP a instauré un principe de coprésidence du parti. Il y a aussi un autre principe qui est que on élit des binômes, c'est-à-dire un homme et une femme à chaque élection municipale, qui est d'ailleurs un dispositif qui n'est pas reconnu par Ankara, mais on y reviendra. Mais d'abord, première chose qu'il faut souligner, c'est que la présence des femmes, c'est véritablement, c'est vous qui le dites, un marqueur de la politique kurde.
Exactement. Quand on regarde le panorama politique en Turquie, on se rend compte très vite du point de vue de la représentation des femmes que le parti kurde, que ce soit le HDP ou bien ses prédécesseurs, sont bien plus loin dans la représentation des femmes que tout le reste des partis politiques, sans mentionner bien sûr donc l'AKP, le Parti républicain du peuple et le Parti nationaliste. Vous avez déjà mentionné les dispositifs, donc la coprésidence. C'est clairement une mesure qui contribue à cette visibilité des femmes au sein de la politique kurde en Turquie. Il y a également un quota, le quota qui est actuellement de 40%, qui est respecté avec une vision pour aller vers la parité qui est déclarée du coup par les femmes politiques kurdes. Vous avez également mentionné le système des commères, mais il y a tout un système qui va au-delà de la politique représentative que les acteurs kurdes mettent en place en Turquie, y compris dans leur municipalité, donc en ce qui concerne la création des départements des femmes, etc. L'action municipale est aussi féminine.
Il y a la question des quotas, mais ensuite, évidemment, le diable est souvent dans les détails. Est-ce que réellement ces femmes ont autant les mêmes pouvoirs que les hommes, ou est-ce qu'on remarque que finalement elles sont cantonnées à certains rôles, à des pouvoirs moindres, en tout cas lorsqu'on les compare aux hommes?
Alors la question des quotas, elle est très complexe, tout autant que la question du système des commères. Si on regarde le système des commères, la mise en place était très différenciée, on pourrait dire. Quand on regarde la région du sud-est, donc le Kurdistan de la Turquie, la plupart des commères femmes, on peut dire qu'elles avaient au moins une visibilité. Mais est-ce qu'elles avaient un réel pouvoir? Est-ce qu'il s'agissait d'un partage égal? On peut s'en douter, notamment du fait... comme vous avez mentionné le détail, un autre détail qu'on pourrait mentionner, c'est le fait que les deux commères, donc l'homme et femme, ont souvent été assises dans un même bureau, mais la femme était un peu à côté avec une petite table, tandis que l'homme occupait vraiment la place centrale de la pièce. Donc il y avait aussi ces
arrangements. Et c'est pas que le symbole, c'est aussi dans les rôles, dans les pouvoirs.
Parfois oui, mais d'autre part, on connaît également les municipalités où les femmes commères avaient pris le rôle bien plus important que leurs collègues hommes. Si on parle de Diyarbakır, de la période de Gültekçenek, c'était clairement le cas. Mais il y avait aussi d'autres municipalités où les femmes étaient confinées à des thématiques qui traitaient de la question des femmes et qu'elles ne partageaient pas forcément le pouvoir décisionnel avec le maire homme sur la base d'égalité. Toutefois... Oui, pardon.
Je vous en prie. Lucile Rersoleva, comment le HDP fait pour atteindre les quotas? Parce que vous avez dit, il y a des quotas qui sont là et ils sont atteints. J'entends que les pouvoirs des femmes ne sont peut-être pas tout à fait ceux des hommes, donc il y a encore du travail, mais enfin, on y arrive quand même. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à respecter les quotas? Est-ce qu'il y a tout simplement est-ce qu'il y a une stratégie particulière ou au fond le HDP laisse la place aux femmes et elles prennent la place qui est la leur absolument naturellement, ou il y a vraiment une stratégie qui vise à identifier d'abord des profils et puis les accompagner dans leur maturation politique?
Alors, le facteur tout à fait clé pour la réussite des femmes au sein des partis kurdes, que ce soit l'HDP ou les prédécesseurs, c'est la mobilisation du mouvement des femmes kurdes qui, lui, va au-delà du parti politique. Donc, il s'inscrit dans cet héritage du mouvement kurde que vous avez déjà abordé avec les autres intervenants. Donc, il y a toute une histoire de la mobilisation des femmes dans laquelle s'inscrivent les femmes en politique et dont elles tirent leur légitimité. Je dirais qu'il n'y a rien de naturel dans leur passage, que c'est vraiment par la lutte qu'on passe et qu'on arrive à faire respecter le quota. Tout pratiquement, cela est fait grâce au fait que, au sein de l'HDP, ce sont les femmes qui choisissent les candidates femmes. Donc, en fait, elles ont cette prérogative tout à fait unique, encore inédite par rapport aux autres partis politiques en Turquie. Donc, les femmes qui choisissent les candidates femmes regardent bien qui est-ce qu'elles choisissent. Ce sont souvent les femmes avec les principes égalitaires, etc.
D'accord. Donc, on a en fait un principe de séparatisme des genres, de séparation des genres, avant d'arriver à un principe d'égalité. Enfin, pas tout à fait d'égalité, mais c'est ça l'idée. C'est ça qui a constitué un facteur important de leur mise en avant sur la scène politique kurde.
Oui, c'est une sorte d'autonomisation des femmes par rapport à des structures de pouvoir qui étaient patriarcales, masculinistes. Il faut aussi dire, par contre, qu'il y a également des structures mixtes au sein du parti et que les femmes ont un certain nombre de compétences quand il s'agit de poser leur veto à des candidats hommes qui, par exemple, avaient un passé de violence faite aux femmes. Vous voyez, un candidat comme ça ne peut pas réussir au sein du parti kurde, au moins en théorie. Évidemment, aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupations. Mais en théorie, ça ne devrait pas être le cas parce que c'est le mouvement des femmes qui intervient dans ces structures mixtes. Donc, ce n'est pas uniquement une autonomisation, mais aussi une intervention au sein des structures mixtes.
C'est vrai au sein du parti, mais c'est vrai aussi dans les organes plus locaux.
Oui, Exactement. Dans les assemblées de quartier, dans les conseils municipaux, cela est également le cas.
Mmh. Est-ce qu'on retrouve des profils particuliers chez ces responsables femmes kurdes?
Alors, du fait justement...
Des parcours, des profils, je ne sais pas.
Mmh. Oui, du fait de ce processus de sélection qui est tout à fait particulier, on voit que les femmes qui sélectionnent les candidats privilégient certains profils. Je dirais qu'il y a surtout deux éléments qui sont privilégiés. D'abord, c'est une histoire de politisation, qui est souvent une politisation familiale. Donc, on regarde du côté du passé familial de la candidate. Est-ce que c'est quelqu'un qui était actif au sein du mouvement kurde? Et d'autre part, c'est une implication au sein des associations des femmes. Donc, il y a surtout ces deux paramètres qui sont pris en compte.
Merci beaucoup, Lucie Drerselova. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut Oriental de l'Académie des Sciences et donc que vous aviez réalisé une thèse sur la question des femmes dans le pouvoir kurde. C'était une thèse qui s'appuyait sur un travail d'enquête qui a duré de longs mois dans les années 2015-2016. Un grand merci à vous. On va retourner du côté des centres et en particulier d'Istanbul pour parler d'Ekrem İmamoğlu, le nouveau maire d'Istanbul, mais aussi la bête noire d'Erdogan.
Ce n'est pas une victoire, c'est un nouveau commencement. Dès demain, je m'occuperai de façon égale de chacun de ces 16 millions d'habitants. Je suis prêt à travailler en harmonie avec vous, Monsieur Erdogan.
Voilà, il y a un an, Ekrem İmamoğlu était élu maire de la plus grande ville du pays, jusqu'ici aux mains de l'AKP, une victoire politique et symbolique d'envergure pour l'opposition. Il avait promis plus de transparence, plus de démocratie. Quel bilan est-ce qu'on peut faire après un an maintenant, oui, d'exercice du pouvoir? İmamoğlu parvient-il à mettre en œuvre son projet? Et puis, comment Erdogan répond justement à cette main tendue d'İmamoğlu? Bonjour, Elise Masika.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Vous aviez publié l'année dernière « Gouverné par la proximité, une sociologie politique des maires de quartier en Turquie ». C'était chez Kartala. L'élection de Ekrem İmamoğlu, Elise Masika, elle avait connu d'importants rebondissements. Je rappelle un tout petit peu pour les auditeurs, avec un premier scrutin qui avait été annulé. Et puis finalement, il y avait eu un deuxième vote. Et puis İmamoğlu l'avait emporté avec 54,2% des suffrages. Maintenant, ça fait un an qu'il est en place, ce nouveau maire d'Istanbul. Il a eu le temps de se faire connaître. Par ailleurs, il a eu aussi le temps de vivre une crise sanitaire majeure. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de son action? Qu'en pensent les Stambouliotes aujourd'hui, Elise Masika?
Alors, je crois qu'il faut replacer dans le contexte cette victoire d'İmamoğlu et la signification qu'elle a dans la scène politique turque. C'est qu'en fait, İmamoğlu est quelqu'un qui est même du principal parti d'opposition, le parti kémaliste, le CHP, mais il a été élu à la tête d'une coalition plus large de partis, qui comprenait un soutien du parti pro-kurde, le HDP, dont on a parlé au début de l'émission. Et donc, c'est une espèce de coalition de l'opposition qu'il a portée au pouvoir. Donc, au-delà même de la gouvernance d'Istanbul, je dirais, c'est une accession d'une coalition d'opposition au pouvoir dans la plus grande ville de Turquie, au moment où on pensait que le système politique était complètement verrouillé par les réformes constitutionnelles de 2018, la présidentialisation qui s'est mise en place à ce moment-là. Donc il y a une signification symbolique extrêmement forte.
Alors, on va voir évidemment, parce que la grande question c'est de savoir aussi si cette coalition de l'opposition elle peut se reproduire à l'échelle du pays, mais d'abord on va rester sur la ville, c'est la ville qui nous intéresse beaucoup cette semaine, Elise Masika. Comme dans beaucoup de capitales, hein, les affaires publiques elles sont souvent gérées aussi par le pouvoir exécutif. S'agissant d'Istanbul, qu'en est-il? Le vrai pouvoir, le réel pouvoir d'İmamoğlu, lequel est-il? Quelle marge de manœuvre il a?
Alors, il a une marge de manœuvre relativement importante dans la mesure où les maires des villes métropolitaines, des métropoles, ont un certain nombre de compétences importantes et aussi un certain nombre de ressources importantes. Le budget de la municipalité métropolitaine d'Istanbul, c'est plusieurs milliards d'euros, c'est plus important que le budget d'un certain nombre de ministères. Donc, vous voyez, c'est considérable. Cependant, on a là quand même un certain nombre d'entraves. Et ce qu'on a vu depuis le début de sa prise de fonction, c'est qu'il a tenté de mettre en place un certain nombre de réformes, de nouveautés, de manières différentes de gouverner, et qu'il a constamment été empêché ou ralenti par des obstacles mis par le gouvernement central, puisque la Turquie reste quand même un pays relativement centraliste.
Vous avez des exemples un peu notables en la matière ?
Bien sûr, c'est-à-dire que sur les gros investissements, par exemple, je pense aux infrastructures telles que le métro, c'est des choses qui nécessitent bien sûr, du point de vue de la municipalité, des emprunts, puisque ce sont des investissements considérables, et qui nécessitent donc l'accord de certaines banques. Et des emprunts ont été empêchés au niveau de certaines banques publiques qui sont fortement liées au pouvoir exécutif central. Donc là, on a très clairement certains robinets qui ont été fermés. Ou alors, par exemple, il y a énormément... la municipalité s'appuie dans la fourniture de services publics sur beaucoup d'entreprises municipales qui sont des publics privés, des hybrides, etc. et qui représentent aussi des budgets considérables. Eh bien, le pouvoir central a retiré aux maires la faculté de nommer les directeurs de ces entreprises municipales, qui sont désormais nommés par les conseils municipaux métropolitains. Et on voit là aussi encore une dimension politique, partisane, puisque c'est ce conseil municipal métropolitain est en fait dominé par l'AKP. Donc, donc là, on voit comment ces luttes politiques se jouent au niveau du gouvernement de la municipalité sur énormément de dossiers, en fait.
Oui. Et donc, parce que ces entreprises municipales, on le comprend, c'est un enjeu économique, mais c'est un enjeu politique, parce que c'est par le truchement notamment de ces entreprises municipales mi-privées, mi-publiques, qu'on va pouvoir déployer des stratégies de clientélistes extrêmement importantes. Et pour l'instant, elles restent dans les mains de l'AKP. Il y a aussi un autre élément qu'on peut peut-être souligner, qui en dit long, c'est le fait que le gouvernement a fait passer un décret par lequel les arrondissements dits du Bosphore, c'est-à-dire qui sont proches du fleuve, et qui sont souvent les plus riches, ont été retirés des compétences du maire et gérées en direct par le président.
Voilà. Donc ça, c'est... il y a un certain nombre de projets comme ça qui sont en train d'être mis en place et donc qui font que le simple fonctionnement de cette municipalité est remis en jeu, en fait, au niveau même institutionnel et de toutes les municipalités métropolitaines en Turquie. Donc finalement, les équilibres de pouvoir, le central, le municipal, etc., tout ça est en train d'être rejoué à travers cette lutte politique partisane. C'est là qu'on voit que... la question qu'on posait tout à l'heure, des municipalités trop kurdes, elle est importante aussi par rapport à ça, par rapport à ce jeu politique national plus large.
Il y a aussi un élément, parce qu'on voit bien que la main tendue par İmamoğlu n'a absolument pas été saisie par Erdogan, bien au contraire. Mais est-ce qu'il a pu faire des choses, İmamoğlu, en matière de transparence? Est-ce qu'il a pu introduire de nouvelles manières, même si je comprends bien que il y a beaucoup d'obstacles sur le financement, mais est-ce qu'il a quand même fait des choses? Parce que à l'arrivée, on a l'impression qu'en réalité, le bilan est quand même très maigre, même si on comprend bien, c'est pas de sa faute, j'entends. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses à mettre à son crédit s'agissant du fonctionnement démocratique de la municipalité ?
Alors, il y a des choses à mettre à son crédit, et le bilan difficile à tirer au bout d'un an, mais en tout cas, sa popularité a explosé. C'est-à-dire que dans les sondages, dans certains sondages, sa popularité a dépassé celle de Erdogan, etc. Donc ça sort pas de nulle part. C'est effectivement qu'il a mis en place un certain nombre de choses nouvelles, en particulier le fait que les délibérations du conseil municipal sont désormais retransmises en direct et elles sont commentées du coup dans les médias, etc. C'est devenu une partie du jeu politique qui jusque-là était pas vraiment l'objet d'un moindre intérêt quelconque. Donc il y a ça, et le fait que à travers cette mise en visibilité d'un certain nombre de choses, ce qu'a fait İmamoğlu, c'est d'abord dénoncer des pratiques de clientélisme, de gestion budgétaire de l'équipe précédente assez calamiteuse, etc., donc des formes de dénonciation très très fortes, mais au-delà de ça, d'un point de vue plus constructif, on va dire, il a essayé de mettre en place des choses orientées vraiment vers les habitants, par exemple concernant la crise sanitaire, des distributions de masques, des banques alimentaires, des formes d'aide sociale, etc., et de les publiciser, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait usage des médias pour visibiliser son action sur tous ces nouveaux fronts. Et là encore, il s'est heurté à beaucoup d'obstacles. Par exemple, sur la banque alimentaire, il a été accusé de séparatisme parce que c'était juste au moment où le pouvoir central lui-même mettait en place un fonds de redistribution et de solidarité. Donc il y a une espèce de concurrence qui s'est jouée là. Et donc il a été, même il est face à face avec une enquête criminelle de ce point-là. Donc, mais le fait qu'il le montre, en fait, il apparaît comme une espèce de victime aussi, quelqu'un de bonne volonté qui essaye de faire des choses et qui est constamment empêché. Et il n'est pas vraiment sûr, du coup, que c'est une stratégie qui sert le pouvoir central, hein, de l'empêcher comme ça. Au contraire, puisque ça fait l'objet d'un débat, c'est à double tranchant pour le pouvoir.
Ouais, c'est un pari politique dangereux pour Erdogan. Jean-François Pérouse et Olivier Piot, peut-être un dernier mot en guise de conclusion, et en particulier sur cette situation à Istanbul, Jean-François Pérouse, parce que la question que posait tout à l'heure Élise Massicard, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir refaire au niveau national ce qui a été fait au niveau d'Istanbul, c'est-à-dire cette coalition de l'opposition à l'échelle du pays. Erdogan répète à l'envi que celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie. Il en sait quelque chose. Il a été maire précisément d'Istanbul et le voilà désormais président. Est-ce que vous pensez que les choses sont en train de se retourner et que ce qu'on est en train de voir du côté d'Istanbul laisse présager que peut-être demain l'opposition sera en capacité de l'emporter pour des législatives, pour des présidentielles et mettre fin à l'ère Erdogan ?
Alors,
vaste question.
D'autant que la coalition là, en fait, elle était double. Hein. On avait une coalition officielle, hein, négociée, donc avec un parti issu de l'extrême droite, hein, issu du parti de l'Action nationaliste, et puis une entente, hein, mais qui n'était pas formalisée, hein, avec le HDP. Hein. Donc c'est quand même une différence importante. Et cette entente, elle a pris un sens, hein, différent selon les arrondissements. Donc là, il y a une très très grande fragilité, hein, de cette coalition, donc à plusieurs vitesses, hein, et un peu contre nature. Hein. Par ailleurs, on ne sait pas ce que l'apparition de deux nouveaux partis va changer, hein, si on essaye de savoir ce qu'il en sera, hein, pour les prochaines élections au niveau national. Une coalition très très très complexe, hein, et à deux niveaux, hein, et fragile. Sur la popularité, oui, elle est quand même beaucoup moins importante que celle du nouveau maire d'Ankara, qui étonnamment a un peu plus de marge de manœuvre, hein, sachant que effectivement Imamoglu, hein, est dans le collimateur, hein, et s'est vu retirer des portions du territoire. Bon, c'est pas tous les arrondissements, mais enfin les territoires, hein, qui sont vraiment au bord du Bosphore, les domaines exclusifs, hein, du pouvoir central se sont élargis, hein, considérablement. Et on voit, en définitive, on a un dédoublement des politiques sociales, un dédoublement des politiques de logement. Hein. Le pouvoir central mène sa propre politique de logement à travers, hein, l'administration du logement collectif, hein, et cherche à marginaliser, voire à discréditer, hein, ce que fait de son côté la mairie, hein, métropolitaine, que je fréquente un peu et où on sent un vent de panique quand même, parce que ils veulent faire des choses, hein, des choses concrètes, hein, dans la perspective évidemment d'une réélection, mais ça leur est très très très difficile, hein. Et donc s'il y a eu un changement, enfin là où Imamoglu a excellé, c'est dans, Élise Massicard l'a dit, hein, dans le symbolique, hein, dans le discursif, hein, un discours beaucoup plus inclusif, hein, et peut-être dans un partage de l'information, hein, plus grand, et on le voit notamment sur la question des morts, hein, du Covid-19, hein, où là, il a eu une politique plus claire, hein, beaucoup plus claire que le pouvoir central.
Jean-François Pérouse, on doit s'arrêter là, on arrive au terme de l'émission largement, vous nous entendez, on est poussé par le générique de fin. Grand merci à tous, Élise Massicard qui était au téléphone à l'instant, Jean-François Pérouse et Olivier Piot, vous êtes tous l'ouvrage l'auteur d'ouvrage dont on va mettre les références sur la page de Culture Monde. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.